Bonjour à tout le monde, bonjour Fabien, merci de m'accompagner. Donc tout à l'heure, nous aurons, enfin dans quelques minutes, un entretien par téléphone avec Sébastien Lasserre, qui est le co-directeur et co-programmateur des rencontres cinéma de Jindou. Donc nous l'aurons au téléphone dans quelques instants, et il s'agit de la 35e édition des rencontres cinéma de Jindou. Je précise que Jindou, c'est un tout petit village qui est dans le Lot, sur le Causse, pas très loin de Casals, et donc qui tous les ans fête le cinéma avec des réalisateurs de renommée internationale.
Voilà. Et là, nous venons d'entendre en fait un groupe qui s'appelle Brutla. C'est un groupe que vous verrez à l'apéro le dimanche 18 lors de ce festival, justement. Et puis peut-être pour faire venir notre auditeur,
l'invité,
on va peut-être... Tiens.
Voilà, quand on parle du loup. Justement.
Allô.
Allô, bonjour.
Sébastien Lasserre.
Oui.
Bonjour. Donc, je précise, vous êtes le co-directeur et co-programmateur des 35e rencontres de cinéma Jindou, lesquelles se dérouleront du 17 au 24 août à Jindou, petit village du Lot. Bonjour.
Bonjour.
Donc, comme tous les ans, vous rendez hommage à des personnalités du cinéma. Cette année, ce sont deux cinéastes, les frères Larrieux, qui sont natifs des Hautes-Pyrénées. Donc, vous pouvez m'expliquer ce choix? Comment avez-vous décidé de les inviter? Pourquoi cette année?
Oh, c'est un choix assez libre.
Oui, je me doute.
Les invités dits d'honneur, bon, qui sont nos parrains chaque année, à qui on consacre une rétrospective. Mm-hmm. Finalement, on s'avance, on séduit selon un peu nos envies.
Mm-hmm, du moment.
Nos envies de cinéphilie qui font que, bon, on aime tout simplement le cinéma des frères Larrieux. Il se trouve qu'ils vont, bon, voilà, qu'on les invite cette année en 2019. Mm-hmm. Vraiment, ça aurait pu être il y a quelques années déjà. Mais ça n'arrive que maintenant. Donc c'est un peu, c'est un petit peu aléatoire, mais ce que l'on sait, c'est que d'une année sur l'autre, on essaye de ne pas se répéter trop, donc
oui, de donner la
de chercher un petit peu, bon, d'une année sur l'autre, à changer un petit peu de changer de finalement un peu d'univers. Dans le fond, l'an dernier, on avait Jean-François Ladiglioni.
Oui.
Cette année, on a les frères Larrieux. Précédemment, on avait une chef opératrice.
Voilà, oui, vous variez.
Qui nous guide. Mm-hmm. Hein, c'est cette idée, voilà, de varier. Et du coup, on est évidemment très heureux d'accueillir les frères Larrieux cette année.
Alors, il faut dire que donc ce sera leur filmographie qui sera présentée à leur présence, donc avec des rencontres. Et ils ont fait en fait des courts métrages, des moyens métrages, des longs métrages et des documentaires. Donc vraiment, c'est une grande fresque d'une certaine manière.
Oui, ils ont fait leur premier film relativement jeune, et c'était les années 86-87. Ils ont commencé par le court métrage, comme beaucoup d'autres. Ça, c'est assez classique. Et puis, en effet, ils ont dans ce parcours réalisé 2-3 films documentaires. Mais bon, dans le fond, leur travail et leur travail de création, ils se situent dans un cinéma de fiction qui, bon, aujourd'hui compte 7 longs métrages. Depuis Fin d'été, qui est un film qui date de la fin des années 90, jusqu'à 21 nuits avec Patty, qui a déjà 3-4 ans.
Et pour la petite histoire, c'est leur grand-père qui leur a un peu insufflé l'amour du cinéma.
Oui,
c'est vrai qu'il filmait lui aussi.
Il raconte ça dans un film documentaire qui s'appelle Les fenêtres sont ouvertes, où ils reviennent un peu sur leur parcours qui les a amenés au cinéma, mais finalement ils le font à travers effectivement l'histoire familiale et un grand-père qui a arpenté la montagne, la montagne pyrénéenne, au-dessus de Lourdes, avec une caméra, et c'était bien plus que de simples entre guillemets films de famille. Il y avait vraiment une véritable
recherche et
d'inventer des histoires, et ça, je crois que ça remonte aux années de d'après-guerre, hein, d'après-seconde guerre mondiale. Donc ils ont baigné un petit peu dans cette dans cet environnement familial où il y avait le grand-père, il y avait un oncle aussi, je crois. C'est vrai que quand on les entend raconter ça, quand on entend le témoignage du grand, de la grand-mère, du grand-père, on se dit tiens, finalement peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que du cinéma. Arnaud et Jean-Marie Larieux, les deux frères. Voilà, il y a le cinéma et ce cinéma, il se faisait en pleine nature. La nature, c'était la montagne.
D'ailleurs,
la montagne qu'on retrouve évidemment très fortement représentée dans leur
filmographie. Voilà. Parce que quand ce ne sont pas les Pyrénées, ce sont les Alpes, la frontière suisse. Enfin, c'est, il y a souvent le décor montagnard, si on peut dire.
Oui. Non, mais ça c'est sûr.
C'est dans leur ADN.
C'est leur ADN parce que ça correspond tout simplement à leur vie, à leur environnement immédiat. Donc ils inscrivent leur histoire, je dirais, leurs histoires, leurs scénarios, je dirais dans les lieux qu'ils connaissent. Et du coup, oui, ils ont emmené, je dirais, leur caméra à des attitudes certaines, hein, c'est pas si souvent. Et que de fait, hein, c'est un cinéma, je dirais, d'extérieur au pluriel, et où le rapport à la nature est très fort.
Et donc ça induit forcément leur choix. Et puis aussi, j'ai lu qu'en fait ils établissaient un rapport entre le lieu, enfin la géographie, et les corps aussi, les paysages et les corps dans leur façon de filmer. Vous pouvez en dire deux mots?
Disons que la question du corps, elle est extrêmement présente. Elle était extrêmement présente sous, mais finalement, selon une entrée j'ai envie de dire très universelle, voire même très très classique, c'est-à-dire que dès les premiers courts métrages, ils mettent en scène des rapports amoureux, et je pense que on retrouve cette question-là dans tous leurs scénarios. Et les rapports amoureux passent par des rapports corporels et d'où aussi la place de la sexualité. Alors ensuite le lien entre paysage et corps et paysage, c'est certain que ces paysages dont on a parlé, la montagne en particulier, finalement on s'y confronte. Je pense que c'est une école de vie et puis c'est aussi un espace dans lequel on éprouve
des sensations fortes, vous voulez dire?
On éprouve à la fois des sensations fortes et on éprouve tout simplement, je dirais, cette question de l'existence, quoi, hein, cette confrontation à soi-même, je dirais.
Qui permet d'aller à l'essentiel, peut-être?
Peut-être. En tout cas, c'est la matière ce décor, ces décors-là, c'est quand même, je dirais, cette matière à histoire, enfin source de la fiction, hein, puisque effectivement, arpenter cette montagne, ces sommets, c'est pas sans obstacles, sans embûches.
Il faut composer avec.
Voilà, mais vraiment, ça nous ramène toujours finalement la question de mettre en scène un peu la relation à l'autre, les rapports humains, tout simplement.
Et peut-être s'approcher d'une certaine manière, d'une certaine, entre guillemets, vérité, puisque bon, la nature et notamment la montagne a ses limites. Ça suppose de temps en temps de composer avec, de respecter la nature et dont les, peut-être que dans un tel environnement, les sentiments sont plus vrais, plus
forts, peut-être. Peut-être c'est cette confrontation dont je parlais. Oui, c'est possible. Après, effectivement, c'est la montagne pyrénéenne. Mmh. Ça a été parfois effectivement là.
Les Alpes aussi.
Les Alpes aussi, mais notamment je revoyais un film qui s'appelle Peindre ou faire l'amour, et là c'est le Vercors.
Ah, ouais.
Et c'est marrant parce que bon, eux expliquent bien que ça n'a pas été une évidence d'aller filmer dans les Alpes.
Dans le Vercors.
Et du coup, par exemple, dans ce film, la montagne, elle est toute, je dirais, horizontale.
Mmh.
Et ce qui est pas, enfin bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans des grandes randonnées, qu'on peut retrouver dans d'autres films, dans des grandes ascensions. Mmh. Voilà. Mais c'est sûr que bon, ce sont des. Là, il y a un plaisir évident aussi de faire du cinéma dans cette dans ce décor là.
Mmh. Dans ce périmètre là.
Mmh. Ah oui. Mmh. Oui, oui.
Puis il y a des couleurs aussi qui sont les couleurs de la nature, donc pour. C'est important aussi.
Et du coup, la couleur, la lumière, et cette nature, encore une fois, je dirais, qui résonne à l'unisson des sentiments.
Mmh, hein. Des cœurs, oui.
Des cœurs, c'est permanent.
Des cœurs et des corps.
Et des corps, bien entendu. Mmh. Bien entendu. Et il participe de la sensualité de tous ces films.
D'accord. Donc, j'imagine, est-ce qu'il y aura des rencontres systématiquement après chaque projection?
Alors pour cette rétrospective Larieux, alors Arnaud et Jean-Marie Larieux seront là pendant 3-4 jours au début du festival, c'est-à-dire l'ouverture.
Le 17 donc.
Le 17 en plein air le soir. Mm-hmm. On aura une grande discussion avec eux dimanche 18 après-midi, ce qu'on appelle la tchatch, entre 17 et 19h. Et puis ensuite leurs films seront présentés tous les matins et ils seront là pour présenter ces séances jusqu'au mardi 20. Mais bon, voilà, il n'est pas certain qu'on puisse avoir un échange après chacune des
Des projections.
Chacune des séances. Mais enfin, on aura un bon moment pour
les rencontrer, pour échanger.
Oui. Voilà.
D'accord. Donc ça, c'est l'hommage donc rendu au frère Larieux. Ensuite, comme tous les ans, il y a toute la partie que vous appelez les vagabondages cinématographiques, avec toute une recherche avec des réalisateurs de différents pays. Enfin, comment justement effectuez-vous ce choix? J'imagine que c'est beaucoup de visionnage, beaucoup de rencontres.
Bah oui, il y a les visionnages de films qu'on nous envoie. Et on en reçoit chaque année un petit peu plus à visionner.
Vous êtes victime de votre succès.
Oui, mais c'est vrai que c'est ce qu'on a appelé nos vagabondages. C'est finalement un parcours très libre dans le cinéma d'aujourd'hui, dans les films. Du coup, bon, on rapporte finalement un petit peu ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé.
Oui.
Mais c'est très généraliste finalement. Il y a tous les formats, il y a du court, il y a du long métrage, il y a du cinéma de fiction, du cinéma
de commande.
Du coup, c'est vrai que par rapport à cette ouverture qu'il y a au cœur de cette programmation, bah dans le fond, ça fait c'est un peu sans limite. Donc ça fait effectivement beaucoup de films à voir, et puis on pourra continuer à regarder pendant des mois. Bon, il y a évidemment des films qu'on voit nous-mêmes dans d'autres festivals. Je pense entre autres au festival de Cannes pour un certain nombre d'avant-premières qu'on va pouvoir présenter, de films longs métrages de fiction qui vont sortir dans les mois qui viennent. Encore une fois, c'est dans ces vagabondages, je crois que bon, il faut vraiment entendre cette idée de
vagabonder.
De libre parcours, hein, et d'éclectisme aussi, d'essayer ensuite dans les choix, il y a ça, c'est-à-dire bon, d'essayer d'avoir une variété dans les sujets abordés.
Avec des thématiques sociétales notamment.
Oui, bien sûr, dans la provenance des films, dans le traitement aussi. Mm-hmm. Moi, je crois que c'est vraiment important aussi qu'on puisse avoir des films avec des formes
différentes.
Des formes variées, différentes, oui, vraiment. Mm-hmm. Important aussi c'est certain qu'on a une propension naturelle à à montrer des films qui observent la société, qui questionnent la société, donc le politique, bien entendu, mais il faut être attentif à, je dirais, dans cette diversité de la programmation, à avoir plein de, j'ai des approches
différentes.
Des approches différentes, mais je pense notamment, c'est un peu simple hein, comme manière de résumer les choses, mais il y a aussi de la comédie dans les films qu'on va présenter. Il y aura des émotions, je dirais, qui vont passer par des films très sérieux avec une certaine gravité, et puis des émotions par des films plus légers. Mais on sait aussi que toute bonne comédie est effectivement toujours un film très sérieux dans le fond.
Oui. Mais c'est la façon de traiter qui diffère.
Oui. Et d'être pour essayer d'être en, je dirais, à notre niveau, un peu en phase avec cette actualité du cinéma, et de pouvoir le faire exister, le faire vivre du coup à Jeandou pendant cette semaine de festival. Et là-dedans, bien sûr, il y a la place aussi du court-métrage qui est importante, puisque, comme on l'a dit pour les frères Larrieux, dans le parcours d'un cinéaste, les premiers pas, les premiers films sont souvent
des courts-métrages.
Souvent des courts-métrages, donc il y a là un petit peu l'idée d'être avec le court-métrage, de représenter un petit peu l'avenir du cinéma.
Oui. J'imagine que les films sont présentés quand ils sont des réalisateurs étrangers en version originale.
Oui, toujours. Toujours.
C'est important aussi.
Oui, bien sûr. Oui, cela c'est vraiment au sens propre hein, l'œuvre dans son entièreté. Alors ensuite, ce qui nous aiguille, je dirais aussi dans cette programmation, dans ces choix de programmation, il y a aussi la mission d'un festival qui est de
faire découvrir,
de suivre aussi.
Mais d'accompagner d'une certaine manière.
D'accompagner, donc on aura dans cette édition, des têtes nouvelles, des gens qui viennent pour la première fois, et puis des gens qu'on va retrouver, des réalisatrices, des réalisateurs qui vont revenir. L'an dernier, on avait donc comme invité d'honneur Jean-François Ladjioni. On va présenter cette année
son nouveau
film, qui s'appelle Le Voyage du Prince, par exemple. On va retrouver Claire Simon, qui avait été également notre invité.
Que vous aviez été comme invité, oui.
Et qui va revenir là avec un film un petit peu hors norme, puisque c'est une série documentaire qui s'appelle Le Village, donc en 10 épisodes. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, des nouvelles têtes, des gens qui ne sont jamais vus, par exemple Jean-Pierre Thorne, qui est pourtant un nom connu dans le cinéma documentaire. Jean-Pierre Thorne va venir avec son nouveau film qui s'appelle L'Acre parfum des immortels, c'est la première fois. Et c'est vrai que compte tenu un petit peu de la ligne de programmation du festival, on aurait pu s'attendre à ce que Jean-Pierre Thorne soit déjà venu. Et même plusieurs fois à Jeandou, mais ça n'est que cette année. Je pense aussi à quelqu'un qui s'appelle Jean-Pascal Zadi, qui est un réalisateur qui va venir présenter un film qui s'appelle Les gens y croient trop. Un film un petit peu, Jean-Pascal Zadi, c'est un réalisateur un petit peu électron libre, autodidacte, ce film c'est une comédie, mais un film qui a beaucoup de choses à nous raconter sur la société française et les quartiers populaires en particulier. Par exemple, Jean-Pascal Zadi, ça va être la première fois, je pense, qu'au moment où on parle, il ne sait pas très bien où il va atterrir en venant à Jeandou.
D'accord, ça sera surprise.
Ouais.
Mais quand vous parliez d'électron libre, c'est quelque chose qui vous parle, ça fait partie aussi de votre ADN, de présenter des gens comme ça qui ont des parcours un peu spécifiques.
Ah oui. Enfin là je parle même à titre personnel. C'est vrai que je suis. Oui, moi je suis assez attiré, bien sûr, par
les gens qui sortent des sentiers battus, pour faire simple.
En tout cas, on ressent comme ça une forte personnalité dans le film. Une personnalité personnalité, une certaine originalité. Bon, tout ça est toujours assez subjectif.
Oui, forcément.
Enfin, des films dont on sent qu'effectivement, il y a derrière quelqu'un qui...
Une matière, il y a quelque chose.
Une vraie proposition, une proposition de cinéma, une proposition qui peut interpeller. Ce sera certainement pas l'unanimité, mais ça n'est pas le...
C'est pas le but.
Mais bon, et là, ça, on le retrouve surtout dans le court-métrage, et dans cet esprit de faire découvrir de jeunes cinéastes et avec encore une fois des propositions fortes, des propositions qui peuvent un peu
déranger peut-être.
Peut-être aussi. Moi, je sais que cette année, on a un court-métrage, bon, qui s'appelle Sans amour, qui est un film un peu dur, un peu choc. Je sais que l'équipe du film, je crois que j'ai pas eu le réalisateur, mais la productrice, et qui était ravie. Je crois que ce sera peut-être même une première du film. Mais elle, ce qu'elle m'a dit spontanément, qu'elle était étonnée que le film soit programmé à Gindouf, parce qu'elle connaît le festival et qu'elle ne l'attendait pas, parce que on est dans un film qui flirte un peu avec le genre et que par rapport à ce qu'elle se représentait des rencontres de
Gindouf,
c'était pas tout à fait la ligne. Et pourtant moi, c'est un film vraiment qui m'a beaucoup, bah, en fait, finalement, qui m'a beaucoup touché. Et puis évidemment, je pense que les spectateurs réagiront. Je peux mentionner aussi un jeune réalisateur suisse qui s'appelle Antoine Rusbach, qui lui va sortir son film au mois de septembre. Ça va sortir en France. Ça s'appelle Ceux qui travaillent. Alors lui, c'est la première fois qu'il va venir. C'est un film où je pense qu'on a à peu près Olivier Gourmet dans tous les plans du film qui tient le rôle principal. Et c'est Ceux qui travaillent, c'est vraiment un film très très fort, une fiction qui nous parle de la mondialisation.
Sujet d'actualité, c'est le mot qu'on puisse dire.
Oui, non, mais c'est voilà. Et puis à l'intérieur, je dirais, bon, c'est évidemment très vague de dire ça, mais une intrigue dans laquelle le personnage principal est vraiment placé devant des choix. Qui engage sa moralité et que je crois qu'on, en tant que spectateur, on ressent très fort. Donc c'est vraiment un film très marquant, qui s'appelle Ceux qui travaillent.
D'accord. Donc comme tous les ans aussi, il y a la Cinémathèque qui fait sa propre programmation, c'est bien cela ?
Oui, ça c'est la Cinémathèque de Toulouse. Partenaire historique du festival dès la deuxième année d'existence. Rappelons que cette année c'est la 35e édition. Donc effectivement, chaque année, il y a une carte blanche donnée à la Cinémathèque de Toulouse sur un thème qu'on choisit ensemble. Cette année, c'est filmer le désert. Alors depuis maintenant aussi un moment, hein, je pense peut-être une dizaine d'années, c'est une carte blanche à la Cinémathèque de Toulouse et aux Archives françaises du film, qui sont abrités par le Centre national du cinéma. Et donc c'est une partie à trois finalement, Cinémathèque, Archives et puis nous, pour réfléchir à cette programmation. Mais de fait, les propositions sont celles de la Cinémathèque et des Archives, et qui nous permettront cette année, sur ce thème du désert, de découvrir et redécouvrir des chefs-d'œuvre.
Des pépites.
Laurence d'Arabie de David Lean, qu'on présentera en plein air le 23 août. Mais aussi La prisonnière du désert de John Ford. Et aussi Derzu Uzala d'Akira Kurosawa. Ce sont des gros morceaux. Peut-être un film un peu moins connu, un Don Quichotte de Grigori Kozintsev, réalisateur russe. Ça date des années 50, c'était encore l'ère soviétique. Et puis, comme chaque année, une série de courts-métrages, vraiment là, de films qui sortent des archives, qui sont extrêmement rares, et là, qui nous placeront certaines époques, les années 30, donc le cinéma colonial français.
Dans tout cet apport historique, patrimonial, et qui permet aussi de comprendre l'évolution de nos sociétés.
Oui, complètement. Donc, ça c'est.
Ce qui s'inscrit dans votre côté pédagogique, du festival.
Oui, enfin, disons que effectivement, le cinéma, c'est au cœur de la vie, au cœur de la société. Mmh, donc, quand on présente une programmation de films du patrimoine sur une thématique, bon, bien entendu qu'on va se poser la question de ce que représente cet espace du désert dans les films en question, ce qui représente par rapport à l'histoire d'un pays, quand on pense à la prisonnière du désert de John Ford, quand on pense à l'histoire et à la grande histoire, bon, pour Laurence d'Arabie, du XXe siècle, avec le Moyen-Orient, bon, bien entendu qu'on a comme ça la possibilité, de questionner effectivement ce que le cinéma et son histoire ont à nous dire de l'évolution de nos sociétés et de nos représentations.
Vous pouvez dire deux mots de ce que vous appelez cinéma militant?
Ces deux séances qu'on a intitulées Éclat de cinéma militant, ça fait 3 ans qu'on a mis ça en place, donc finalement c'est ce qu'on vient de dire, c'est peut-être le pousser un petit peu plus, c'est-à-dire que là c'est ouvertement une programmation de films militants au sens de films qui entendent réellement sur tel et tel sujet interpeller le public, le faire réagir, le sensibiliser. Donc à chaque fois il y a une thématique. Cette année c'est une collaboration avec le Musée national de l'histoire de l'immigration, qu'on connaît par ailleurs avec d'autres activités que l'on mène à l'année. Donc c'est la première fois qu'on les invite au festival, donc sur une thématique très très large, l'histoire, la mémoire de l'immigration. Donc forcément un regard partiel, mais avec deux séances et des films très forts. L'un de Medondo s'appelle Soleil Haut. Medondo, cinéaste mauritanien qui est décédé cette année, qui était connu davantage, et comme ça qu'on en a parlé au moment de son décès, comme le doubleur d'Eddie Murphy, et le doubleur dans des films à succès comme Shrek, prêtant sa voix, donc. Mais finalement, Medondo, c'était d'abord un cinéaste militant, assez militant, et Soleil Haut, c'est un film de 1970 qui ressemble un petit peu à un essai, un poème filmique, il y a quelque chose d'un petit peu godardien aussi, là-dedans, mais c'est assez fort. J'ai même eu la surprise en découvrant le film de voir que le générique de début de ce film, Soleil Haut, avait été fait par Jean-François Laglioni, justement, animation. Donc ça, c'était assez, assez étonnant, puisqu'on l'avait avec nous l'an dernier. Donc Soleil Haut, et puis l'autre séance, on aura un court-métrage de René Vautier et un film qui s'appelle Étranger, de Frédéric Barrio et Marcel Tria, et pareil, dans les mêmes années, 69-70, et qui est un petit peu le pendant, sous une forme documentaire, de Soleil Haut, mais on retrouve effectivement la question de la...
Les mêmes questionnements
sur la place et le non-accueil
de l'autre, de l'étranger.
De l'immigré, et question de logement, question de travail, question de racisme. Autant de choses qui sont sur lesquelles nécessairement on a avancé, mais qui sont pas réglées.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Sont pas du tout réglées aujourd'hui. Donc, évidemment, cette programmation-là, elle a un petit peu aussi comme but de mettre en perspective. Ces questionnements et de nous réinterroger.
Comme un écho d'une certaine manière à l'actualité.
Oui, complètement. Voilà cette sélection Éclat de cinéma militant.
Là, je vous propose peut-être de faire une courte pause musicale avec notamment un groupe qui passera chez vous, durant les apéros-concerts, et après nous reprendrons la discussion. Vous êtes d'accord?
Oui, très bien, très bien, très bien.
On va écouter donc Omar et son accordéon.
quelques mots sont tombés du ciel. Une nuit où je passais par là, quelques mots à peine essentiels pour ceux qui ne savent pas. Combien la nuit est belle lorsqu'il y pleut des poèmes qui me parlent de toi, qui me parlent de toi. Un hasard malheureux les a fait comme moi, beau de tristesse et mort de toi. Pour une fois que je caresse les courbes d'un quatrain, tes rimes disparaissent, me laissant pour vos rires. Des mots désolés, non, mais des mots enlarmés me prennent comme papier la nuit pour en crier. Je maudis les poètes, je maudis les amours, je maudis tout le reste. La nuit et le jour, il y pleut l'indigeste. Question du pourquoi tu mûris ma déesse pour un autre que moi. Oh, quelques mots sont tombés du ciel. Une nuit où je passais par là, quelques mots à peine essentiels pour ceux qui
Omar et son accordéon qui seront samedi sur le festival.
Sébastien ?
Oui.
D'accord. Donc, ben, puisque nous venons d'entendre un morceau d'un groupe qui sera présent durant le festival de Jindou, vous pouvez aussi évoquer le fait que tous les ans vous conviez souvent de jeunes artistes, vous leur permettez de pouvoir s'exprimer en public dans un festival. Vous pouvez en dire deux mots, puisqu'en général c'est tous les soirs un groupe différent, hein, c'est bien ça.
Oui, tout simplement, oui, c'est...
Souvent des gens de la région.
Des apéro-concerts qui sont gratuits, qui ont lieu tous les jours à 19h, sont des groupes de la région ou pas.
Mm-hmm. Mais, à l'extérieur, toujours.
Et c'est à l'extérieur, mm-hmm. C'est à l'extérieur, oui, en effet. Et là, notamment, je sais que le dimanche 18, c'est un groupe qui s'appelle Brutla. Mmh. Et je mentionne juste ce groupe parce que là le lien s'est fait par les frères Larieux.
D'accord.
Ce sont eux qui
vous l'ont proposé.
Qui avaient été embauchés et qui jouaient dans 21 nuits avec Patty. Il y avait une scène
d'accord.
de bal.
Mmh.
Et c'était ce groupe-là. Donc, ça n'a pas été très compliqué de les faire venir, à Jindou. Mmh. Bon, voilà. Mais ensuite. Ensuite, c'est un groupe différent chaque
tous les soirs,
soir,
oui.
Et,
mmh.
Et avec un petit peu comme pour les films, hein, des entrées très, très différentes, très variées.
Mmh. Toujours très l'éclectisme.
Mais qui participe vraiment aussi de cet esprit de convivialité qu'on veut absolument préserver dans nos rencontres, qui font que voilà qu'il y a des il y a une partie de notre public aussi qui aime ce moment où on a de la musique et
du chant.
Et à cette heure-là de la journée, entre je dirais les projections de journée et les projections du soir.
Mm-hmm.
C'est plutôt très très bienvenu et de l'autre côté artiste, eh bien on reçoit beaucoup de propositions,
j'imagine,
qui nous proposent
leur
prestation. Mm-hmm. Oui, et voilà,
et après vous devez effectuer un choix, évidemment.
Intéressé donc pour venir jouer à Jindou.
Et puisque vous dites que c'est entre après les projections de jour et puis avant celle de la nuit, celles du jour sont dans une salle, c'est ça ? Et celle du soir, c'est au cinéma de Verdure, c'est bien cela ?
C'est ça, oui, oui. Et le soir, c'est donc en plein air, dans un amphithéâtre, donc on appelle effectivement le cinéma de Verdure. Donc là, il y a chaque soir un court-métrage et deux longs-métrages, sauf le dernier soir.
C'est la nuit complète.
C'est toute une nuit, donc ça se finit au petit matin. Et puis en journée, donc, c'est dans une salle qui s'appelle l'Arsenic, qui est une salle encore assez récente, puisque ça va être seulement la deuxième année qu'on l'utilise. Et c'est une salle de cinéma, enfin dédiée au cinéma et au spectacle, mais où il y a 250 places. Et des conditions de projection qui sont excellentes. Donc pour nous c'est formidable, parce que c'est formidable pour le public, et ça l'est aussi, je crois, pour les cinéastes qui viennent présenter.
Ben, j'imagine.
C'est important.
Donc nous allons maintenant évoquer, si vous le voulez bien, tout l'aspect qui accompagne ce festival, avec notamment tout ce côté pédagogique aussi qui permet de donner la chance notamment à de futures réalisatrices et futurs réalisateurs, avec ce que vous appelez la ruche, dont vous vous occupez particulièrement, dont vous accompagnez des jeunes cinéastes ou des cinéastes en herbe, si on peut dire, pour leur permettre d'affiner leurs projets et avec un travail d'écriture, c'est bien cela ?
Les accompagne dans l'écriture d'un scénario de court-métrage, ce qui est ce qui nous a semblé important, c'est de pouvoir leur proposer plusieurs temps de résidence d'écriture. Des temps de résidence d'écriture, ça veut dire qu'on a des tuteurs qui sont eux des professionnels confirmés, et on travaille aujourd'hui avec le cinéaste Emmanuel Laborie et la scénariste Virginie Leger, qui vont donc encadrer ce travail d'écriture sous la forme d'un tutorat avec chacun des auteurs. En même temps, c'est un groupe qu'on va suivre pendant à peu près 5-6 mois, avec une résidence d'écriture pour démarrer au moment du festival à Jindou, qui se poursuit en octobre à Bordeaux au moment d'un autre festival qui s'appelle le FIFIB, et puis au mois de novembre à Lyon, Villeurbanne, au moment du festival de court-métrage de Villeurbanne. C'est important aussi que ces temps de résidence se fassent pendant des manifestations, pendant des festivals, puisque c'est important de les accompagner dans un projet d'écriture. Et l'autre enjeu, c'est de se constituer ce que j'appellerais un premier réseau, donc la possibilité dans un festival, certes, de voir des films et de voir, donc, du coup, un petit peu de prendre un petit peu la température. Hein,
et de nouer des contacts aussi.
Mais surtout aussi de nouer des contacts. Mmh. Et on termine tout cela par un grand rendez-vous pendant toute une journée à la maison des auteurs de la SACD à Paris, avec des producteurs. Mmh. Donc c'est effectivement assez passionnant à mettre en place. Ça répond à un travail de longue date à Jindou sur le soutien à l'écriture de scénario, et donc qui a pris cette forme depuis 2013, qu'on a appelé La Ruche, et comme vous le rappeliez, qui a pour spécificité s'adresser à de jeunes auteurs, apprentis cinéastes. Mmh. Difficile de trouver le bon qualificatif, mmh, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas fait d'études de cinéma et qu'on peut qualifier d'autodidactes. Mmh. Ça correspond certainement à une génération actuelle de jeunes créateurs qui font des images par eux-mêmes, qui apprennent
sur le tas, comme on dit.
Qui apprennent sur le tas. Ça a toujours existé, mais il est possible qu'effectivement depuis 10-15 ans, avec les moyens du numérique, oui, ce soit
développé
encore un peu plus. Mmh. Et c'est là derrière aussi des nouveaux visages, mmh, hein, dans le cinéma, dans le cinéma français en l'occurrence, et dont il a besoin. Et donc c'est un travail de longue haleine. Ces auteurs autodidactes ont néanmoins, je pense, besoin à un moment d'un accompagnement professionnel pour pouvoir aller plus loin.
Mmh, bien sûr, et pour se perfectionner.
C'est leur choix, c'est leur désir. Donc voilà un petit peu l'esprit, je dirais, de cette action, et ce qui fait que et ça évidemment c'est pour nous c'est une belle une belle récompense, c'est-à-dire que maintenant on accueille au moment du festival 3-4, cette année je crois qu'ils seront 4.
Ouais.
4 jeunes réalisateurs et réalisatrices passés par nos résidences de La Ruche et qui viennent présenter un film.
D'accord.
Alors qui est un film court-métrage, hein, pas forcément d'ailleurs ce qu'ils ont écrit avec nous, mais ça c'est pas très grave.
Oui, c'est le fait qu'ils puissent se continuer dans leur recherche.
Qu'ils puissent trouver leur voie. Ce sont souvent des jeunes gens qui sont un peu à la croisée des chemins, proches de la trentaine, et qui souvent se posent la question de savoir si effectivement ils sont légitimes à aller plus loin, à faire ou pas du cinéma. Il y a la question aussi, bon, évidemment, de la question économique, hein, parce que le cinéma, bon, il faut être très, je dirais, comme sans doute tous les métiers artistiques, très persévérant, c'est dur pour tout le monde, alors je dirais à plus forte raison quand on part de plus loin. Donc on les accompagne aussi dans cette réflexion, donc de les voir ensuite un an, deux ans, trois ans après venir avec un film, le présenter ici, ça c'est vraiment pas neutre.
Mais c'est encourageant, oui, pour tout le monde.
C'est encourageant et c'est important.
Donc ça concerne La Ruche. Ensuite, il y a aussi le goût des autres qui existe depuis plus longtemps. Oui. Là, ce sont des scénarii, on dit comme ça, oui.
Ouais, c'est un concours, concours de scénario pour les 12-18 ans, donc finalement la classe d'âge juste
avant
de celle qu'on de celle de La Ruche. Uh-huh. D'ailleurs, c'est un peu lié, mais disons que là, on est plus effectivement dans une démarche pédagogique. Mmh. À la fois pédagogique sur les questions qui nous intéressent, ça s'appelle le goût des autres.
Oui.
Donc, on retrouve tout ce qui recouvre, tout ce que recouvre, je dirais, d'enjeux, de problématiques, le vivre ensemble. Et tout simplement, moi, je dirais que ce concours a pour vocation d'encourager à l'autre, un rapport à l'autre, un rapport à la différence. Et comment on s'en débrouille dans sa vie, tout simplement. Donc l'idée, c'est de nous soumettre des idées de films, de courts-métrages, qui racontent ça, qui mettent en scène un petit peu les questions qu'on se pose, et c'est sur tous ces enjeux. Donc ça va, effectivement, on retrouve, je dirais, les questions d'immigration, de mémoire d'immigration, les questions de discrimination et de racisme, la question de la question des identités. C'est plein de sujets. C'est vrai que notre conviction, nous, c'est de faire un travail d'écriture, de se situer à cet endroit-là aussi avec les jeunes, L'écriture d'un scénario, c'est technique, mais c'est un langage, mais c'est le langage du cinéma, hein, c'est quand même un langage qui consiste à essayer d'aller à l'essentiel, qui est proche du langage de la vie, hein, finalement, et c'est vrai que travailler sur un scénario, finalement, c'est structurer aussi un petit peu sa pensée, c'est pouvoir approfondir ses idées, donc ça, c'est le travail qu'on fait avec un certain nombre de projets qu'on sélectionne. Mm-hmm. C'est un concours qui s'étend sur la région d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, donc pour nous, c'est quand même un gros morceau.
Effectivement.
Et je passe les détails, mais ça débouche sur des projets lauréats, et ces projets lauréats, c'est ceux sur lesquels on s'engage à une réalisation de films, avec les jeunes et une petite équipe professionnelle. Donc, même chose, hein, une opération au long cours, avec à la fois on a l'opération au sens de ce travail d'écriture avec les jeunes, et au même moment, on a toujours plusieurs projets de films en cours liés aux éditions précédentes. Voilà, par exemple, résumer le concours Le Goût des Autres.
Donc c'est toujours cet aspect pédagogique important, et aussi de pouvoir donner la parole entre guillemets à des gens qui peut-être n'auraient pas pu l'avoir ou n'auraient pas eu accès. Il y a toujours toujours ce qui vous motive profondément.
Ce qui motive au moment des rencontres cinéma, du festival, parce que je crois vraiment, je crois qu'on peut dire objectivement qu'il y a un vrai brassage, notamment de milieux sociaux, de provenance. Entre public local et des gens qui viennent de l'extérieur, mais ensuite, je dirais entre ruraux, urbains. Enfin bon, là on se retrouve ici dans un lieu qui fait un peu qui rassemble. Ça on le retrouve effectivement dans nos différentes actions. Par exemple, pour Le Goût des Autres, il y a une journée, maintenant qui se passe à Jindou, grâce à cette nouvelle salle, où on rassemble tous ces jeunes scénaristes qui viennent présenter en public leur scénario. Et là, il y a un petit peu toutes les couches de la société qui sont représentées, donc c'est à notre petite échelle, mais je pense qu'en termes d'expérience humaine, c'est important pour ces jeunes, même s'ils n'en ont pas forcément conscience
sur le moment,
mais je pense que l'expérience est marquante.
Les graines germeront plus tard, vous voulez dire?
En tout cas, oui, c'est un peu notre idée.
D'accord. Est-ce que vous pouvez dire deux mots aussi sur ce que vous appelez parcours game, notamment l'attention des jeunes?
Les skate games, oui. Ça fait partie des... Parce que bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi dans notre programmation de films, on essaie de ne pas oublier le jeune public.
Et oui, c'est important.
Il y a plusieurs films qui intéresseront donc les plus jeunes. Et je pense notamment, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais Le Voyage du Prince, de Jean-François Ladionni et Xavier Picard, qui est un dessin animé. Pour ceux qui connaissent ou qui ont découvert l'an dernier à Jindou l'œuvre de Jean-François Ladionni, Le Voyage du Prince est la suite en quelque sorte du Château des Singes, il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais à côté de la programmation des films, on propose aussi un certain nombre, je dirais, d'animations, de petits ateliers pédagogiques autour du cinéma.
Sous tous ces aspects, pardon, c'est ça?
Oui, bon, là, c'est quand même l'idée de pratiquer. Donc, c'est vrai que nous, on a conçu il y a quelques années maintenant une exposition sur les débuts du cinéma. Les techniques qui ont débouché sur l'invention du cinéma et qui permettent de comprendre comment se construit cette
image. Cheminement,
comment se construit cette image de cinéma, qui sont prétextes pour nous à faire plein de proposer plein de petits ateliers sur les différents, je dirais justement, les différentes étapes de fabrication d'un film, notamment le montage. Pendant le festival, on le propose au public. Et puis, vous m'interrogiez sur là-dessus. Cette année, pour la première fois, on va proposer deux escape games. Moi, personnellement, je ne connais pas très bien tout ça. Mais je vois bien un petit peu le frémissement, je dirais, que ça suscite quand on évoque escape game, une sorte de jeu de piste. Alors là, qu'on a fait un petit peu à thème, à la fois l'un pour les grands, l'un pour les petits. Pour les grands, on a repris un petit peu des motifs des films des frères Larrieux.
D'accord.
Bon, ça fait partie de cette convivialité dont je parlais tout à l'heure, et de s'amuser tout en
apprenant.
apprenant et au passage un petit peu autour du voilà de ce que c'est que le cinéma et donc il y a une des propositions toute la semaine toute la semaine dans cette voilà dans cette optique.
Et il faut dire aussi qu'après, en dehors du festival, tout au long de l'année, vous avez aussi tout un travail pédagogique, notamment avec les collèges et les lycées.
Oui, oui, oui. Bah, on est aussi le coordinateur pour le département du Lot. Enfin, à l'échelle du département, hein, c'est pas un travail pour le pour le département, mais on est le coordinateur départemental d'école et cinéma et collège au cinéma, qui sont des opérations nationales. Et qui se décline ensuite sur les territoires selon les forces en présence. Ça se fait évidemment en collaboration avec les avec l'éducation nationale étroitement. Et bon, ça consiste à ce que les élèves écoliers collégiens vont une fois par trimestre voir un film en salle de cinéma.
D'accord.
Bien entendu, bien entendu, et ensuite un travail qui est fait autour de chacun de ces films. Et bien voilà, nous on est un petit peu au cœur de ce dispositif qui met en relation établissement scolaire, salle de cinéma, et puis à nous de faire fonctionner ça et de proposer aussi notre appui sur l'accompagnement pédagogique autour de ces films.
D'accord. Et est-ce que le fait comme ça que depuis, bon, d'une part que ce festival existe depuis 35 ans, qu'il y a tout ce travail pédagogique à plusieurs niveaux, est-ce que les salles de cinéma lotoises sont assidûment fréquentées par des gens de tout âge, si je puis dire? Est-ce que vous le savez ou pas?
Disons que je crois que c'est dans un coin de la tête, c'est l'intention.
J'imagine.
C'est une motivation. Après, pour le mesurer, pour être tout à fait honnête, c'est difficile. Mais ce qu'on sait, c'est que, notamment pour les jeunes spectateurs qui ont pu, qui ont participé à École et Cinéma, Collège et Cinéma, un exemple concret. Nous, on en retrouve ensuite dans nos équipes de bénévoles
pour
le festival. C'est-à-dire cette année, par exemple, on va avoir un court métrage qui s'appelle Grande Marmaille de Clémentine Carrier.
Oui.
Qui est une jeune réalisatrice dont c'est le premier film, originaire de Gourdon, donc qui est à 20
kilomètres
de Jindou. Moi, je me souviens très bien, il y a quelques années, elle avait notamment postulé donc aux résidences de La Ruche, mais en disant bien que son rapport au cinéma, il avait démarré avec École et Cinéma, quand elle était toute gamine, et un atelier qu'on avait organisé, un atelier de pratique qui avait consisté à faire un film avec sa classe et qu'on avait animé et qui avait la fameuse graine dont on parlait tout à l'heure et fondatrice du fait qu'aujourd'hui elle est réalisatrice et elle se destine à faire du cinéma. Donc à travers cet exemple là on peut avoir effectivement bon espoir qu'on participe de cette sensibilisation au cinéma d'auteur. Et que ce sens-là, ça se fait en bonne intelligence avec les salles de cinéma. Mais c'est difficile à mesurer objectivement.
D'accord. Il faut aussi dire que depuis de longues années, enfin me semble-t-il, il y a la participation de la tartinerie librairie de Saran, donc ils proposent des ouvrages aussi ayant un rapport avec le cinéma.
Oui. Tout à fait.
Ils sont là toute la semaine aussi, c'est ça?
Ils sont là toute la semaine, donc Saran, c'est dans
le Gers.
C'est un petit village du Gers.
Tout petit.
dans lequel s'est monté ce projet de librairie. C'est un projet qui a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et donc la tartinerie se transporte.
Se déplace,
même si pendant le festival, ceux qui passeraient par Saran peuvent toujours évidemment. La librairie là-bas n'est pas
fermée,
bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Jindou, c'est quand même une belle librairie qui s'installe pendant une semaine. Et c'est vrai que c'est important parce que c'est une proposition. édition de livres et de DVD en écho à la programmation, qui nous donne aussi la possibilité d'organiser des rencontres avec les auteurs. Toute la semaine également, et donc c'est un lieu d'échange,
un autre lieu de une autre façon d'appréhender le monde du cinéma,
et complètement et ce qui fait que c'est vraiment un partenariat important.
Avons-nous fait le tour des divers partenariats que vous ou pas, parce que j'en ai peut-être oublié en cours, c'est possible, vous me dites.
Alors là, je crois quand même qu'on a quand même bien balayé. Non, ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant la semaine du festival, alors bon, c'est sûr que pour les gens qui ne connaissent pas, je dirais Jindou et ses alentours, bon, ça ne sera pas très parlant. Mais quand même, de rappeler que pendant la semaine, il y a 5 soirées aussi qui se font dans des villages environnants.
En dehors de Jindou, oui, d'accord.
En dehors de Jindou.
Cinéma itinérant, c'est ça?
Voilà, le cinéma itinérant, c'est important parce que ça me rappelle à quel point effectivement tout ce le festival qui a 35 ans, qui a grandi petit à petit, c'est aussi ça n'aurait pas pu exister sans effectivement un certain nombre d'apports extérieurs. Ça n'aurait pas pu exister non plus s'il n'y avait pas eu cet ancrage local qui se travaille toujours, mais qui font que c'est aussi un événement. Une fête du cinéma, je dirais, pour le territoire qui est le nôtre, territoire rural. Donc ça, finalement, ce sont des partenariats aussi à rappeler très fort, avec les communes alentour, la communauté de communes qui coordonne tout ça.
Elle s'appelle comment, la communauté,
La communauté commune de Casal-Salviac.
Voilà, d'accord.
Deux communes un peu plus importantes que Jindou. Et ce qui veut dire aussi que dans toute cette histoire-là, je crois que il y a aussi un soutien certain. Enfin, c'est évident, mais il faut le redire aussi, un soutien des collectivités,
un soutien politique aussi. Enfin,
et un travail avec les élus plutôt stimulant et constructif, qui ont misé effectivement sur la culture.
Ils vous ont accompagné dans ce projet-là.
Ils ont accompagné, qui continuent de nous accompagner.
Et soutenus,
qui a également des plasticiens à quelques kilomètres, des danseurs à quelques kilomètres.
Et oui.
Ce projet de salle qui s'appelle l'Arsenic, s'il existe aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y avait il y avait tout ce travail de terrain, cette action culturelle portée par un certain nombre d'associations, la nôtre pour le cinéma, mais encore une fois, la musique à côté, les arts plastiques, etc.
La danse à Casal aussi.
Et la danse à Casal, exactement, avec la compagnie Divergence, l'association fait des gestes. Donc, c'est important de le rappeler, c'est la vie d'un territoire. Et entre autres, qui s'est donc matérialisé depuis 2018 avec cette salle de l'Arsenic, qui donne lieu à une programmation de spectacles et une programmation mensuelle au niveau cinéma durant toute l'année.
Et c'est une salle qui accueille du spectacle vivant aussi qui passe.
Oui, c'est bien ça. Spectacle, spectacle de danse, théâtre, musique,
D'accord. Peut-être préciser où se trouve Jindou pour les gens qui ne le connaîtraient pas, et puis aussi donner les différentes coordonnées téléphoniques, le site peut-être, pour que tout le monde puisse se renseigner.
Donc Jindou, c'est à peu près à une petite trentaine de minutes de Cahors, au nord de Cahors, disons nord-ouest de Cahors. De Toulouse, il faut compter 1h30, 2h, en voiture. Les gares les plus proches, c'est Cahors quand on vient du sud, c'est Gourdon quand on vient du nord. Et ensuite, effectivement, moi je renvoie volontiers au site internet www.jindoucinema.org parce que il y a sur le site la grille de programmation,
tous les détails,
avec les dates et les horaires des films, mais il y a aussi évidemment le détail des films. Avec les présentations de chaque film sur le site internet qui permet de se repérer.
De bien visionner et de faire ses choix. Exactement. En toute liberté.
Exactement, voilà.
Je vous remercie encore une fois infiniment pour tout ce temps que vous nous avez accordé.
Merci beaucoup.
Et je vous dis bon festival. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
On se quitte avec un autre morceau de Brutla. le slow du lac.
Merci.